Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Dans notre studio radio, vous pouvez nous écouter grâce aux ondes à radio, mais vous pouvez aussi nous regarder, nous suivre sur le Facebook Live. Et vous découvrirez que le tandem qui est fidèle au Café des Sports du vendredi est bien là. Rémi Ngono et Xavier Barré, bonjour messieurs.
Pour rien au monde.
Bonjour
à tous. Pour rien au monde, on rate ce rendez-vous.
Les auditeurs ont rendez-vous avec nous aussi, et ça c'est très important. Et puis on a un revenant dans cette émission, vous l'écoutez peut-être d'ailleurs, ou vous le voyez peut-être ailleurs, mais il revient dans Radio Foot International, on est très contente de le retrouver. Bonjour Nicolas Villas.
Bonjour.
Ah, mercato réussi.
N'est-ce pas?
Ça fait très plaisir de vous revoir. Vous êtes toujours aussi beau tous.
Hein.
C'est vrai, Xavier, cette moustache, il faut vraiment que tu m'expliques le concept. Je comprends pas. Ça fait plus depuis, toi Alexandre Dumas, t'es dans ce délire. Pendant le confinement, il servait à la lecture, Xavier.
Un barbichu qui critique bel et bien la moustache de l'autre. Alors là, c'est incroyable.
Oui, parce que la barbe a poussé depuis que Nicolas est revenu.
Le chameau ne voit jamais sa propre bosse.
Ça commence fort. Je vous avais prévenu.
Laisse ça pousser, laisse ça pousser. Ça va faire un peu du Domenech là.
Ah, tu crois? Sans la méchanceté, bien sûr.
Alors, on y va pour le sommaire de ce Café des Sports. Dans nos débats du jour, un avant-goût de Première Ligue dès demain avec le retour des Reds sur une pelouse anglaise, le Community Shield. La Supercoupe d'Angleterre opposera à Wembley les champions d'Angleterre et les Gunners, vainqueurs de la Cup. Liverpool est-il déjà le favori au seuil de la nouvelle saison? C'est la question qu'on se posera. Une Première Ligue suspendue au prochain épisode du feuilleton Messi. L'arrivée de la Pulga doperait-elle l'intérêt déjà grand pour le championnat insulaire? Autre question. Un championnat où évolue toujours José Mourinho. Sur le banc de Tottenham, le Portugais qu'on n'ose plus trop appeler The Special One, et pour sa famille, Zé Mário. Nous irons à la rencontre de ce personnage, à la genèse de cet entraîneur, pas comme les autres, grâce à vous Nicolas Villas, grâce à votre livre, c'est ça?
Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Je l'espère, en tout cas.
Vous allez nous présenter ça.
C'est intéressant qu'avec Rémi Ngono.
Mais Rémi, il parle d'après, il parle pas d'avant. Et justement, c'est là que Nicolas est allé sur les terres portugaises pour enquêter du côté de Setúbal. Et puis, la Ligue des Champions clap de fin avec la finale OL Wolfsburg. Ce sera dimanche soir à Bilbao et sur RFI. Je vous dirai pourquoi. À tout de suite. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Return to Wembley to take on Premier League champions Liverpool for the Community Shield.
Qui remportera ce Community Shield?
Day Trippers et chers Beatles, pour évoquer le premier grand rendez-vous du football anglais. Dès demain après-midi donc, Liverpool-Arsenal. Malheureusement, dans un stade qui sonnera creux, vide de ses milliers de supporters habituels, pandémie du coronavirus oblige, ce sera en tout cas à Londres, à Wembley. Une affiche qui sonne rouge, peut-on dire, entre deux clubs vainqueurs l'an passé du championnat et de la Coupe nationale. Les hommes de Liverpool, sacrés champions d'Angleterre il y a à peine plus d'un mois, ont déjà repris l'entraînement, même si la Première Ligue ne reprendra, elle, que le 12 septembre prochain. Un stage de 10 jours s'est passé en Autriche pour Liverpool avec une rencontre 2-2 contre Salzbourg. Pas de mauvaise surprise, en tout cas pas de contamination pour l'instant au coronavirus dans l'équipe. Un Liverpool encore en formation, on va dire en transition entre ces deux saisons. Il y a un défenseur grec qui est arrivé, mais on attend peut-être encore le Brésilien Thiago Alcantara. En tout cas, faut-il gagner dès le premier match? Évidemment, mais ça ne sera pas simple, explique Jürgen Klopp.
C'est une compétition, c'est très rare d'avoir le temps de se préparer pour un match spécifique. Si vous me demandiez ce que je souhaite, je vous dirais donnez-moi 6 semaines et moi je vous mettrai la meilleure équipe au complet. Mais là, le championnat c'est fini il y a à peine un mois. Donc pour cette rencontre, je ne vous cache pas que je serais très surpris si nous disputions notre meilleure rencontre de la saison. Maintenant, ce n'est pas un match de préparation ni un match amical, c'est le Community Shield et qui plus est face à Arsenal. Nous allons donc faire notre maximum.
We will try whatever we can. Xavier, est-ce que ce Liverpool-Arsenal, c'est la belle équipe pour reprendre pied, disons, en Angleterre, avec deux équipes historiques, on va dire, de ce championnat?
Bien sûr, parce que vous avez l'équipe qui a gagné le plus souvent la Cup, Arsenal, qui l'a remporté pour la 14e fois début août, hein, tout début août, cette finale de la Cup. Et vous avez de l'autre côté Liverpool, qui a remporté 19 fois le championnat, c'est-à-dire juste une fois de moins qu'à Manchester United. Donc c'est le deuxième club le plus titré d'Angleterre.
Ça fait 30 ans.
Donc c'est une superbe affiche, une somptueuse affiche pour, comme le Community Shield nous en offre souvent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe qui est vraiment au sommet de son art et une formation d'Arsenal. En fait, on l'attendait pas vraiment au Community Shield il y a encore quelques semaines.
C'était face à Chelsea.
Ils étaient largués en championnat et puis ils ont réussi ce coup de maître en Cup dans leur compétition fétiche en remportant la demi-finale contre le Manchester City de Pep Guardiola, puis la finale contre le Chelsea de Frank Lampard, et c'est le premier titre de Mikel Arteta qui est sur le banc depuis 6 mois à peine. Donc c'est une affiche extrêmement alléchante entre une équipe installée, championne d'Europe l'année dernière, championne d'Angleterre cette saison, cette année, et une équipe qui est en reconstruction. Donc moi j'ai beaucoup d'intérêt pour cette rencontre.
Rémi, les Reds ont terminé la saison un petit peu difficilement, même si ils avaient effectivement survolé le championnat. Ils ont terminé avec c'était 25 points hein, jusqu'au bout, 25 points d'avance par rapport à Manchester City. Sacré champion d'Angleterre, mais bon, il y a eu le confinement, ce restart qui a été compliqué. Est-ce que selon vous, ça en fait quand même des favoris pour le Community Shield, et peut-être dès à présent, peut-on aborder un tout petit peu l'année qui vient?
Ils sont favoris si on se tient quand même à cet épisode du Covid-19 qui a été aussi quelque chose de favorable à une équipe qui était déjà sur les rotules. Parce qu'il faut quand même se dire que c'est une équipe avec le système Klopp où il faut beaucoup presser. À la fin de la saison,
c'était de la Ligue des Champions très tôt,
qui
hein.
pratiquement n'avait plus assez de gaz, plus beaucoup de carburant et qui avait de la peine à pouvoir enchaîner. Donc l'élimination de la Ligue des Champions aidant, et bien sûr aussi avec le Covid, on se dit ils se sont sérieusement reposés parce qu'on avait quand même vu que Salah, Sadio Mané, qui constitue par exemple ce qu'on peut appeler les fléchettes de cette équipe, n'allaient plus aussi vite que ça. Donc aujourd'hui, c'est une équipe que je peux dire, ça va, mais Klopp a dit tout de suite quelque chose. Si vous me donnez un peu de temps, je pourrais encore mieux vous le dire. Parce que quand j'ai vu leur match quand même face à Salzbourg, ils ont quand même pris 2 buts, même si c'était pas, on peut pas dire que c'était l'équipe type, mais en même temps, on a vu qu'ils avaient de la difficulté à démarrer, mais quand ils sont entrés dans le match, ils ont quand même réussi à égaliser. Donc, on s'est dit, c'est une machine qui est faite pour gagner. C'est ma meilleure équipe au niveau de la Première Ligue, au niveau de l'Angleterre en ce moment. Donc, normalement, ils sont favoris.
Nicolas Villas, est-ce que vous aussi, vous voyez Liverpool légèrement favori par rapport à Arsenal ou finalement,
forcément.
Une finale, c'est toujours, ça remet un peu à égalité les chances?
Alors, c'est toujours des matchs particuliers, ça se joue sur un match. On l'a vu là pendant la Ligue des Champions avec cette formule très particulière où tout se jouait sur un seul match et un match sec. Forcément, Liverpool est favori. Ils sortent en plus d'une saison où enfin ils ont été sacrés champions d'Angleterre. Pour rebondir sur ce que disait Rémi, ils étaient fatigués, ils ont mis beaucoup de pression. Le grand objectif de Klopp cette saison, c'était même plus la Champions League, c'était vraiment ce championnat qui leur échappait depuis 30 ans. Et puis Arsenal, comme disait Xavier, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, qu'on attendait peut-être même pas d'ailleurs vainqueur de la Cup cette saison, qui a beaucoup de mal. Qui vivait déjà des périodes compliquées sur la fin de l'ère Wenger. L'après Wenger a été très compliqué. Unai Emery, Arteta est arrivé, il y a eu Ljungberg entre temps. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver l'entraîneur, le manager qui fera peut-être remonter cette équipe d'Arsenal. Est-ce que ce sera Arteta ou pas? Je sais pas. Après, c'est un titre qui est très important en Angleterre, qui a une symbolique qui est très forte, très puissante,
caritatif.
Et c'est vrai qu'Arsenal est devenu finalement une équipe de coupe plus que d'ailleurs Liverpool, parce que Klopp avait d'autres priorités. Ça avait été la Champions, ça avait été le championnat, la Première Ligue. C'est vrai que ça peut s'annoncer sympa parce que c'est des circonstances qui sont très particulières, pas de public, des matchs très rapprochés, d'une préparation qui est tronquée, des joueurs qui sont peut-être fatigués. Donc oui, effectivement, tout est jouable sur une seule rencontre.
Il y a une interrogation, Rémi, du côté d'Arsenal. C'est l'interrogation Pierre-Emerick Aubameyang, l'international gabonais. Est-ce qu'il va rester ou pas? Il reste un peu mystérieux sur cela.
Il va rester. L'interrogation, plutôt, c'est peut-être sur son compatriote français qui devrait certainement être engagé au niveau de Atlético parce que actuellement il devrait Lacazette devrait aller remplacer Diego Costa qui risque lui partir du côté de Tottenham. Donc aujourd'hui, c'est un jeu de chaise parce qu'on se dit que absolument il faut reconstruire aussi du côté d'Atlético, surtout sur le plan offensif et on a besoin absolument de Lacazette. Donc à ce côté-là, c'est là où il y a des interrogations.
Ça favorise Aubameyang.
Oui, Aubameyang ne va pas partir. Aubameyang ne va pas partir parce que pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'issues et pour l'instant, le club ne va pas le lâcher parce qu'il est quand même sous contrat et il a un salaire énormissime. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas Aubameyang partir.
Il a marqué quand même ses 69e et 70e buts depuis qu'il est sous le maillot des Gunners à l'occasion de la dernière finale de Cup. Donc c'est vraiment le capitaine de l'équipe, c'est le buteur, c'est la figure de proue de ce club d'Arsenal. Très franchement, il a quoi, 32 ans je crois, 31 à son âge...
Il a des rêves.
Mais il a des rêves, oui, mais il faut être réaliste. Relancer un club comme Arsenal...
On peut l'empêcher de rêver.
Oui, mais il va pas aller au Real. Hein. Relancer un club comme Arsenal avec ce projet qu'il y a aujourd'hui, un projet de jeu, un projet de rajeunissement de l'effectif, moi, je trouve ça très excitant. Et quand on en est la figure de proue, c'est quand même un magnifique défi. Alors c'est le jeu des supputations. On est en pleine période de transfert, d'annoncer les autres à droite à gauche.
Il y a pas de certitude pour l'instant, mais ça fait partie des joueurs.
Je suis même pas convaincu que moi ce soit, parce que vous disiez Annie il y a quelques instants, parce que je vous vois, parce que voilà, ce qui est pas bizarre d'ailleurs.
Habitudes,
non, excuse-moi, Annie, je déconne.
Tu tutoies tout le monde.
Annie, on va se dire les choses sérieusement, tu vois. Non, mais tu disais peut-être que le départ de Lacazette peut libérer d'une certaine façon Aubameyang. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Ils s'entendaient vraiment bien les deux. C'est-à-dire aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Après, effectivement, Rémi. T'as raison. Avec le salaire qu'il a, le statut même d'ailleurs dont il joue aujourd'hui à Arsenal. Après, quand tu dis il va pas aller au Real,
beaucoup, en fait.
Très sincèrement, on a vu des buteurs, notamment ces dernières saisons, signés dans des clubs. Ça me vient comme ça. Choupo-Moting au PSG qui aurait cru ça il y a 2-3 ans. Il y a des joueurs qu'on soupçonne pas signer parfois dans des gros clubs. Moi-même, tu disais Diego Costa à Tottenham, mais moi je me dis Diego Costa à Tottenham, c'est bizarre. Peut-être pas finalement. C'est peut-être le bon.
Tu es Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui, capitaine d'Arsenal, vainqueur de la Cup, avec un projet de rajeunissement ambitieux.
Il a un statut.
Tu vas pas aller remplaçant dans un club même
le
plus prestigieux.
Je sais pas.
Moi, ça me paraît pas un progrès.
Tu veux peut-être qu'il veut jouer la Champions, qu'il veut peut-être voir autre chose, que je sais pas, il veut rouler à droite, tu vois des trucs comme ça. Je sais pas.
Manchester City a été l'année dernière le bon et fidèle second de ce championnat. Il avait dû passer le titre aux Reds de Liverpool. Sont-ils remis de leur échec à Lisbonne puisqu'ils ont été éliminés, vous vous en souvenez, en quart de finale par Lyon. Ils sont évidemment ces citizens dans la tourmente Messi qui, on l'envoie beaucoup, Lionel Messi, du côté de Manchester City, du côté des citizens parce que Pep Guardiola, parce que d'autres raisons. Pour Mikel Arteta, en tout cas, l'entraîneur des Gunners, il n'y a pas d'hésitation. Si le championnat anglais venait à adopter Messi, eh bien, tout le football anglais y gagnerait.
Messi a été annoncé partout, tous les clubs le veulent. J'ai toujours été un grand fan depuis mon enfance. C'est un peu triste de le voir quitter Barcelone. On verra bien. Maintenant, s'il vient en Angleterre, on en profitera. Et puis, si c'est contre Arsenal, ce n'est pas très grave. Vous savez, c'est bon pour le football. Maintenant, s'il ne vient pas en Angleterre, il faudra l'affronter en Ligue des Champions. Vous voulez toujours les meilleurs joueurs dans votre championnat. Il faut avoir le championnat le plus compétitif du monde. C'est le plus important pour un sportif. La Première Ligue en a toujours eu. J'ai joué contre Cristiano Ronaldo et c'était vraiment top. Cela permet de faire monter le niveau de tous les joueurs et de chaque équipe.
Xavier, est-ce que la Première Ligue serait encore plus grande avec Messi dans un de ses clubs?
Ce serait forcément un pôle d'attraction exceptionnel. D'autant plus qu'on l'a dit souvent.
Mais c'est déjà le championnat le plus regardé dans le monde.
Oui, il le sera encore un peu plus. Alors le défi pour Messi est extraordinaire puisque on dit qu'il est incapable de s'adapter ailleurs que à Barcelone.
Non, on le dit pas, on se pose la question depuis des années.
Et on dit notamment que l'Angleterre, qui est un championnat très athlétique, c'est pas pour lui qui est un petit bonhomme d'1m69. Donc là, ce serait un défi formidable. Alors, dans un contexte qu'il connaît un peu parce que forcément avec Pep Guardiola comme entraîneur, il aurait quand même quelques repères. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, à Manchester City, enfin, chez les Citizens, on se pose même pas la question. Il y a déjà des spéculations pour savoir quel numéro de maillot il va adopter. Sachant que le 10 est celui de son copain, le Kun Agüero, que le 7 est déjà pris. Enfin, voilà. Donc, ils ont déjà fait la liste des numéros libres en se disant lequel va choisir Messi, sachant que le 18, qui était le numéro qu'il portait à Barcelone avant que Ronaldinho s'en aille et lui laisse le numéro 10, est libre. Donc, tout le monde spécule maintenant sur le fait qu'il porterait le numéro 18.
Nicolas Villas, vous le voyez atterrir où, vous, Lionel Messi?
J'en sais rien. Le foot, ça devient tellement n'importe quoi en termes de transfert ces derniers temps. Tout à l'heure, je parlais des joueurs qu'on n'imagine pas parfois dans des gros clubs. Et des fois, c'est même l'inverse. Après, l'imaginer à City, quand on connaît les liens avec Guardiola, des infos qu'on entend ici et là et qui filtrent, ils se sont appelés, etc. C'est pas dingue. Une chose est claire, il n'y a pas 50 clubs qui peuvent se le payer, Lionel Messi, aujourd'hui. On a parlé d'Inter Milan où Zhang a mis beaucoup d'argent, l'investisseur chinois. Voilà, on a parlé du Paris Saint-Germain parce que là aussi, il y a beaucoup de moyens. Tout ça aussi dans un contexte particulier avec le fair play financier, etc. Moi, en revanche, ce que je me dis, parce que vous disiez, ça peut être une attractivité géniale pour la Première Ligue. Moi, je pense surtout à Javier Tebas qui disait il y a 3 ans, quand Cristiano Ronaldo est parti en Serie A, tout va bien, vous inquiétez pas, la Liga sera toujours la plus attractive, on a Lionel Messi. C'est surtout la Liga qui risque de prendre une grosse claque.
Ils ont perdu Neymar et après ils ont perdu Cristiano Ronaldo. Après Messi, c'est effectivement pour le championnat espagnol, ça risque d'être énorme. Rémi, Lionel Messi, où le voyez-vous?
En 2017, il faisait déjà semblant, ce champignon qui est né sur place et qui va rester sur place. il va partir à Manchester City pour aller rejoindre son copain. Et puis, on nous avait dit qu'il aurait même un bonus de 57 millions à la signature. On nous a même dit que tout était déjà réglé parce que c'était 286 millions d'euros. Et puis, le bon Messi a dit, non, je ne pars plus jouer avec mon copain Agüero. Je vais rester au Barça parce que je ne partirai jamais de cette maison. C'est la mienne. Aujourd'hui, on me dit que...
Ça vous a surpris, Rémi?
Mais ça me surprend. C'est même un peu dingue de sa part. Parce que pour l'instant, il est sous contrat. Il va partir comment? La clause libératoire, c'est 700 millions d'euros. Et quand on me dit tout ce qu'on peut dire, on sort des calculettes auprès de Manchester City, on se dit, nous allons dépenser pour 3 ans 538 millions d'euros, sachant que la signature sera à 243
Rémi,
millions.
Rémi, où le voyez-vous?
Mais le problème, c'est que je le vois à Barça.
D'accord, mais non, c'est pas
je
problème.
Le vois au Barça.
Je voulais juste savoir.
C'est
ce
autre
que...
camp que. Maintenant, il y aura déjà un pied cassé, quand il ne sera plus capable de courir, c'est là où il va repartir. Pour l'instant, il cherche juste à obtenir la tête du président, puisqu'il il obtient
d'accord.
la tête de tout le monde.
Ça va rassurer les Français alors qu'il reste au Barça.
Mais si qui n'est pas au Barça et aller en Angleterre, il y a un proverbe africain qui dit quand le poisson sèche dans l'eau, il meurt sous le soleil.
Ouais. Non mais
vous aviez même jamais les proverbes africains, vous avez tous remarqué.
Il y en a parfois qui tombent mal.
Pas, c'est pour ça.
Mais non mais il faut savoir quand même une chose, c'est que le Messi compte lui faire valoir la clause qu'il y a dans son contrat.
On en a beaucoup parlé
dans l'émission, bien sûr, mais c'est quand même un élément important. Donc on risque d'avoir un bras de fer juridique. Et si la situation veut se débloquer, peut-être que le Barça, à un moment ou à un autre, se dira qu'il vaudrait mieux prendre 100 ou 150 millions d'euros maintenant que peut-être rien, déjà dans quelques mois, s'il part au terme de son contrat dans un an, dans une saison, ou si par hasard, la FIFA donne raison à Messi, enfin le TAS.
Juste une chose par rapport à ce que tu disais, Rémi, mais c'est vrai, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire je suis partagé, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas un jeu de poker menteur, faire ça pour obtenir ce qu'il veut finalement. Sauf que Cristiano Ronaldo a fait ça 3-4 fois et au bout d'un moment, le club lui a dit ciao. Alors là, effectivement, il n'y aura plus de président pour lui dire ciao et il ne peut pas se le permettre quand on voit ce que c'est. Mais il y a aussi un autre élément, c'est si Messi veut vraiment partir aujourd'hui, ça va être difficile, même s'il a une clause, même si c'est 700 millions d'euros, pour le Barça de vouloir le garder. En fait, c'est un vrai dilemme et une vraie problématique aujourd'hui. Après, savoir ce que lui veut vraiment faire, il n'y a que lui qui le sait apparemment. Mais tu as peut-être raison, peut-être que ce qu'on lit aujourd'hui, c'est de la manipulation finalement.
En tout cas, il y a quelqu'un qui en a profité pour filer en Angleterre, pour filer à l'anglaise.
Oh, Thiago Silva. Oh, Thiago Silva.
J'espère que je peux sortir avec la bonne force. Face à Chelsea là-bas, au Champions League des champions, qu'on a qualifié.
So happy to be with you guys. See you soon, Blues fans.
Un néo-blues en la personne de l'ex-capitaine emblématique du PSG ces dernières années, poussé vers la sortie après 8 ans de bons et loyaux services. Il va donc désormais, Thiago Silva, porter un maillot que portèrent notamment avant lui Eden Hazard ou Didier Drogba. C'est donc la tunique de Chelsea. Le défenseur monstro de 35 ans a signé aujourd'hui un contrat d'un an renouvelable. Nicolas Villas, est-ce que selon vous, il peut rebondir encore en Première Ligue ?
Quand on voit là le mois qu'il nous a fait, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions, il a quand même de bons restes encore.
Le PSG va avoir des regrets alors ?
Il y avait même des infos qui disaient dernièrement que certains se demandaient en interne si ils n'avaient pas intérêt
Tuchel
à le maintenir.
Tuchel se le demandait même publiquement.
Ouais, voilà. Donc non, c'est un joueur qui est hyper intéressant quand même, Thiago Silva. Après, il faut qu'il soit en confiance, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas au Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Il a aussi parfois été mis en concurrence par moments. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup apprécié. Alors, il a parfois été moqué parce que très justement, il a trop souvent le blues. Posez le cas de le dire, Thiago Silva.
Ça va s'arranger alors.
Ouais, moi aussi, je fais des jeux de mots, Annie. Hein. Je peux filer à l'anglaise, tout ça. Vous croyez qu'on l'a pas compris? Non, mais c'est un joueur qui est quand même super intéressant, Thiago Silva. Enfin, et en plus, pour le coup, je connais pas le montant de la prime à la signature, mais un joueur comme ça, gratuit, qui arrive dans un gros club, qui peut encadrer certains jeunes joueurs. Il y en a des très bons d'ailleurs à Chelsea. Ils ont des vraies bonnes équipes de jeunes aussi, les Blues. Donc ça peut être pas mal. Ouais.
Xavier, ce qui est amusant, c'est ce qu'on entendait, c'est que son meilleur souvenir pour l'instant à lui, quand il était au PSG en Ligue des Champions, c'est ce but qu'il marque et qui qualifie le PSG contre Chelsea.
PSG réduit à 10 par l'exclusion de Zlatan Ibrahimovic et qui finit à 2-2 sur la pelouse de Stamford Bridge, c'était un match extraordinaire.
Ouais,
donc c'est vrai que bon, après entre Chelsea et le PSG, on a vu pas mal d'échanges ces dernières années, notamment David Luiz, David Luiz qui a fait l'aller, le retour,
et l'Arsenal en ce moment.
Voilà, et qui est passé maintenant à Arsenal. Donc non, Thiago Silva, je pense qu'effectivement c'est une bonne pioche. Pourquoi le PSG ne l'a pas gardé? Je pense qu'il y avait vraiment la volonté de la part de Leonardo et des dirigeants de tourner la page, de passer à autre chose.
Bon,
il a quand même 35 ans, donc voilà, il voulait effectivement donner en gros les clés et le capitanat à Marquinhos, ce qui va donc se passer. Et en revanche, Chelsea, c'est une bonne pioche parce qu'on a pu voir qu'en charnière centrale ces derniers mois, il y a eu pas mal de. Ça a pas mal pataugé. Rudiger,
c'est pas
un super défenseur. Le jeune Kurt Zouma, il a un potentiel, mais il a besoin d'être guidé. Donc, Christensen, le Danois, il a à moitié disparu. Donc, il y a du. On sait que Chelsea a un gros potentiel. Ils ont fait un bon recrutement parce qu'ils ont pris Timo Werner, Hakim Ziyech pour le secteur offensif. Ils ont pris le petit Chilwell comme arrière gauche aussi.
Ils ne pouvaient pas recruter ces derniers temps.
Ils ont rattrapé un peu le retard qui était dû à la fait qu'ils étaient interdits de recrutement. Mais un élément d'expérience comme ça, à 35 ans, qui arrive dans un cadre anglais où il y a beaucoup de matchs, donc il ne les jouera pas tous, ça c'est sûr. Donc il peut apporter son expérience. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Rémi, ça vous a surpris, Thiago Silva, du côté de l'Angleterre? Parce qu'on l'annonçait aussi beaucoup en Italie, notamment au AC Milan dont il venait.
Oui, je crois qu'il aurait été mieux peut-être là-bas, mais... parce que aujourd'hui, Thiago, comme vous l'appelez là, au monstre, je ne sais pas quel monstre il a été.
C'est son surnom.
Oui, je ne sais pas quel monstre il a été. Si c'était le monstre pour effrayer les bébés, parce que. Ah non, mais attends, quand ce mec, il arrivait quand même au Paris Saint-Germain, c'était 42 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Donc, en fin de compte, je me rends compte
qu'il n'a fait... Mais Rémi, il a tenu son rang au Paris Saint-Germain.
Il n'a fait que pleurer. Et puis, on nous a aussi vanté l'autre là, David. Lui, ça a été des échecs, c'est des catastrophes.
Ah, tu trouves, toi, que Thiago Silva, c'est un échec au PSG?
Ah, mais c'est un gros échec, c'est un gros échec.
Ça mais n'a pas Rémi, son palmarès, en plus, 7 titres de Ligue 1, 5 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, en 8 ans.
Mon palmarès à moi, bien évidemment, c'est très 13 Ligue des Champions, d'accord, non, c'est dans mon village là-bas. Donc ça, ça ne veut rien dire. Parce que quand vous
Rémi, il était le capitaine, il était avec le Paris Saint-Germain, il a tenu
mais c'est
son
vrai,
rang.
Non, mais...
On n'a pas recruté Thiago. Quand on le recrute, qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu ici parce qu'on m'a parlé d'un projet de gagner la Ligue des Champions. Et nous devons la gagner en 2014.
Oui,
et finalement, on dit qu'il est arrivé en finale Covid-19. Donc, voilà tout ce qu'il va dire,
ça,
que j'ai réussi à atteindre
ça,
la finale.
Mais
attendez, attends, Annie, il n'a rien gagné. Soyons sérieux, il n'a pas gagné la Ligue des Champions.
Mais il est quand même associé aux échecs. Alors, bon, je ne vais pas être aussi tranché que Rémi là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est quand même associé aussi à certains échecs qui ont été marquants pour le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, certaines personnes garderont aussi ça. C'est-à-dire que Thiago Silva, on ne peut pas lui enlever son palmarès parce qu'il y a contribué, même si effectivement c'est des trophées nationaux. Il a effectivement atteint la finale de la Ligue des Champions et il a été performant. performant avec le PSG dans cette des circonstances particulières cette année. Mais c'est vrai qu'il est aussi associé à certains échecs très marquants du Paris Saint-Germain ces dernières saisons au niveau européen.
Mmh. Effectivement. Bon, on suivra en tout cas son rebond du côté de l'Angleterre. L'Angleterre, terre de prédilection d'un entraîneur portugais que tout le monde connaît.
Jose Mourinho will always be the special one.
They are not the special one like him.
Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I think I'm a special one.
I'm the happy one.
José Mourinho, of course, qui, après Chelsea, après Manchester United, est aujourd'hui à Tottenham. Alors, votre livre, Nicolas Villas, Mourinho derrière The Special One, de la genèse à la gloire. Il y a 265 pages, donc il y a beaucoup de choses à raconter.
Surtout que c'est écrit petit. Hein.
Aux éditions Exuvi, hein, c'est ça, on dit comme
Exuvi,
ça. Exuvi.
Ouais.
Deux ans d'enquête, une centaine d'interviews. En fait, vous vous êtes concentré autour de Mourinho, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres ouvrages, mais sur le gamin, on va dire, parce que on commence très tôt, on commence à sa naissance du côté de Setúbal, et on va jusque finalement à l'homme qu'il est devenu. Alors moi je me demandais d'abord, on l'a beaucoup appelé the Special One, mais est-ce que Zé Mario, qui est le surnom que lui donnent tous ses proches, et c'est son prénom,
le diminutif,
voilà, le diminutif portugais, est-ce que Zé Mario, c'est finalement pour vous, il y a un vrai lien, vous voyez le lien entre le personnage qu'on connaît, The Special One, et lui?
Bah forcément, il y a quelque chose qui découle de l'intime dans le personnage qu'on peut voir notamment en conférence de presse, face aux médias, etc. Après, effectivement, moi, le livre s'arrête jusqu'à l'extrait qu'on a écouté là, c'est-à-dire « Ne dites pas que je suis arrogant, je suis le Special One » quand il arrive à Chelsea.
Et
il
y a beaucoup en arrivant de Porto, où il a gagné des titres européens.
Il y a d'excellents livres qui ont été écrits là-dessus, que ce soit sa période Chelsea, ses périodes Inter, Real Madrid, etc. Mais c'est vrai que la période moins connue, c'est-à-dire le gamin, le fils, le père, le mari, l'adjoint, l'éducateur, l'entraîneur principal débutant, on le connaît beaucoup moins. Et même le joueur, d'ailleurs, parce qu'il a joué en D2, notamment au Portugal. C'est des périodes qu'on connaît beaucoup moins, et il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Après, pour en venir à la question, oui, parce que le livre, une grande partie du livre et une grande partie des témoignages sont axés sur la carrière de son père. Parce qu'il faut savoir que le premier modèle de José Mourinho, c'était Mourinho Félix, qui était son papa, qui a été un très bon gardien au Portugal, qui avait une sélection, qui est devenu entraîneur, mais qui est de très, trop bonne composition. Et il avait comme spécialité de faire monter les équipes souvent de petites divisions vers la division principale ou la D2. Et à chaque fin de saison, il se faisait virer le père Mourinho. Et José, qui était adolescent, qui était petit adolescent ou jeune adulte, il voyait ça et il le vivait très mal. Et un jour, son père s'est fait virer le jour de Noël au Rio Ave. Et c'est quelque chose qui est resté profondément d'ancré et de marqué chez José Mourinho. Il a dit « Moi, jamais on me traitera comme ça ». Et très certainement que la posture qu'il a face aux médias, parfois même d'ailleurs face à ses dirigeants, qui peut être très très dur, très 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 rigide, très frigide même parfois.
Provocateur aussi.
Aussi, ça peut. Il y a plusieurs choses. En fait, c'est l'antithèse de ce qu'était son père et de finalement ce personnage qui était cette personne même qui était d'ailleurs trop gentille et trop bonne finalement, et qui s'est fait avoir. Et lui s'est juré de ne jamais être maltraité comme l'a été son père, qui était d'ailleurs un bon entraîneur. C'est ce que disent beaucoup de témoins.
Ouais. D'où l'intérêt effectivement de s'intéresser à la genèse et de s'intéresser à son enfance finalement pour trouver peut-être l'explication de ce rôle qu'il s'est donné.
Le lien qu'il a avec son père, mais en fait, si vous voulez, même au-delà de ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de fantasmes et d'idées reçues, de clichés, de préjugés. José Mourinho était traducteur, il a jamais été traducteur. José Mourinho, il était adjoint, notamment ça. Alors ça lui était accolé quand il arrivait au Barça, qui pour moi d'ailleurs est l'une des peut-être des périodes les plus méconnues et les plus intéressantes de sa carrière, parce qu'il est très identifié à Real Madrid. Savoir que le club dans lequel il a passé le plus d'années consécutives, c'est le FC Barcelone pendant 4 ans, où il a été l'adjoint de Robson et de Van Gaal à l'époque.
Et où il aurait voulu finalement bien être
entraîneur. Il a même failli y retourner il y a bien des années plus tard, mais c'est une période qui est très intéressante à ce niveau-là aussi.
Mais il y est amené par Bobby Robson, qu'il a eu comme adjoint au Sporting de Lisbonne, et qui donc, quand il va à Barcelone, il part avec son staff, en tout cas avec José Mourinho.
Mais voilà, il y a, et surtout, moi, il y a des choses que j'ignorais complètement, mais moi, son côté éducatif, indicateurs, que ce soit au Kumar Sindoustre qui était un petit club à Setúbal ou au Vitória de Setúbal également, sont passés de joueurs. Enfin, il y a des trucs.
Oui, son attachement en plus viscéral. Ah, bah,
il se battait avec des mecs.
Au Portugal et à Setúbal.
Voilà, il se battait avec des coéquipiers, avec d'autres quand il allait aider son père qui parlait mal à son père. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir aujourd'hui, quand on sait la posture qu'il a vis-à-vis de ses joueurs, savoir comment lui était à l'époque. C'est-à-dire déjà très très impliqué, très engagé, parfois même à l'extrême, y compris d'ailleurs dans les études, quand il se trimballait avec ses bouquins également. Voilà, il y a beaucoup de choses qui dénotent de la personnalité de ce qu'est José Mourinho dans l'intimité aussi, finalement.
Oui, parce qu'en plus, c'est à cause de son père, de cette relation avec son père et à travers les clubs, que finalement, il s'est plus tourné vers le côté entraîneur, parce qu'à chaque fois, finalement, on le barrait.
Alors, il y avait ça, et il y a surtout, il y a pas mal de témoins qui ont joué avec lui, que ce soit en équipe de jeunes ou quand il jouait en D2, qui disaient, en fait, ses parents n'étaient pas chauds pour qu'il fasse une carrière de joueur. Pourquoi ? Parce que son père avait conscience qu'il n'avait pas le niveau pour être un top joueur et donc finalement de vivre à travers le football. Et Mourinho, très jeune, en parle avec certains de ses coéquipiers. Déjà, il se trimballe avec les bouquins, il parle tactique avec les entraîneurs, il se pose des questions et il a déjà conscience qu'il ne pourra pas être quelqu'un de spécial, justement. Et il dit à ses coéquipiers, je sais que je ne pourrais pas être quelqu'un d'à part et être au top en tant que joueur, donc je ne le serai pas dans le football en tant que joueur, je le serai en tant qu'entraîneur. Et il y en a même certains qui disent, quand il jouait à Zimbra en D2 au Portugal, où il disait, moi à l'époque, il me disait déjà, tu verras, plus tard, je serai le meilleur entraîneur du monde. Parce que je sais que je ne le serai pas en tant que joueur, justement. Il avait déjà cette ambition, finalement.
Une anecdote amusante, Rémi, ça va vous amuser. Il donnait des noms de joueurs à ses chiens.
Ouais, il y avait Gullit et Richcard.
Voilà, ouais, notamment, il donnait ça. Et puis alors, il s'était abonné, alors qu'il était encore jeune, et il s'était abonné à 11. Oui. Son papa avait réussi à l'abonner à 11, qui à l'époque était une revue française. Et lui qui était au Portugal.
Il parle un peu français d'ailleurs. Alors,
oui, bien même.
Très bien français. Bien.
Il fait partie de cette génération où le portugais était quasi obligatoire à l'école. Donc il se débrouille pas mal en français encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une vraie galère parce qu'il s'est abonné à deux magazines étrangers, un magazine anglophone et un autre francophone, donc 11. Et à l'époque, bon, comme il n'y avait pas Internet, etc., et c'était des transferts internationaux. Le Portugal était en autarcie sous la dictature salazariste et son père devait appeler la banque, puis l'étranger, puis machin, il parlait pas français, enfin, c'était une vraie galère finalement. Mais il a eu ses abonnements au magazine et il a fait ses stages à l'étranger aussi.
Est-ce que pour vous, c'est aussi dans cette genèse qu'il va trouver peut-être les armes pour rebondir actuellement ? Parce qu'on a l'impression que José Mourinho, même si ça reste un très grand entraîneur, actuellement il est moins courtisé et on parle moins de lui.
Je pense qu'il
y a moins de résultats aussi.
Je sais pas s'il trouvera les ressources là-dedans parce que maintenant il est fait. J'ai envie de dire c'est devenu une personnalité, un personnage. Il a tout gagné, etc. Je pense qu'au contraire, et d'ailleurs lui-même l'a avoué dans une interview assez récemment, il souffre très certainement d'un décalage générationnel. C'est-à-dire que lui-même dit aujourd'hui je suis face à des joueurs qui n'ont pas forcément la même implication, la même passion pour le football. Et puis il y a aussi d'autres choses qui font que quand des événements se passent dans un vestiaire ou en dehors du vestiaire, tout se sait, c'est les réseaux sociaux. Voilà, lui quand il était au Benfica, il y a des choses quand il débute sa carrière d'entraîneur principal en 2000 au Benfica, il y a des problèmes de dingue dans le vestiaire, sauf que pas de réseaux sociaux. Si quelqu'un ne balance pas à la presse, personne ne le sait. Donc il arrivait à contenir ça finalement d'une certaine façon. À Porto pareil, il y a eu des problèmes dans le vestiaire. Il a réussi à contenir ça. Aujourd'hui, quand une chose se passe, un joueur demain sort en discothèque, il se prend la tête avec quelqu'un, c'est filmé, c'est sur les réseaux, c'est mort. Il ne peut rien régler. La preuve est là. Et ça, c'est quelque chose... Il a moins le contrôle aujourd'hui sur les événements, Mourinho. Peut-être que ça explique aussi pourquoi son management est parfois un peu plus compliqué. Je ne dirais pas défaillant, mais très certainement plus compliqué par moment.
Rémi, ça vous donne envie d'en savoir plus sur Mourinho et finalement d'où vient cet entraîneur ?
Bien sûr, Mourinho c'est un livre, Mourinho c'est une histoire, Mourinho c'est une légende. Mourinho c'est certainement l'un des meilleurs, voire les trois meilleurs entraîneurs du monde. Donc,
il a un beau palmarès lui.
Il a un très grand palmarès, surtout que lui il a une particularité, comme on dit, c'est que c'est pas un entraîneur qui forcément a eu une tâche très facile, c'est quelqu'un qui sort presque du néant comme ça. Et puis voilà, avec le Porto quand même, on se dit, c'est pas possible qu'il vienne à gagner comme ça. Donc, gagner une Ligue des Champions avec ce Porto-là, et surtout aussi, il a gagné l'UEFA. Et puis, sans pour autant oublier que même avec l'Inter, il est parti se reconstruire là-bas. Là où on se disait quand même qu'il ne peut pas aussi facilement réussir. Et finalement, il va faire un triplé historique. Et puis, en Angleterre, on dit ce sera hyper compliqué. Mais on ne va pas quand même oublier qu'avec Chelsea, il a été 3 fois champion. Mmh. Donc, pour moi, c'est un entraîneur qui a réussi partout. Et autre chose, c'est que jusqu'à présent, les gens ne savent pas que... comme Roger Xavier Barret aime souvent parler comme certains, oh, c'est un entraîneur défensif. Mais les gens ne savent pas que c'est avec le Real qui détient le record, avec 120 buts marqués. 120 buts marqués quand il passe au Real, c'est donc la meilleure attaque. On ne sait pas que c'est avec ce Real-là que la première fois le Real atteint 100 points. Donc, 100 points. Donc,
à une certaine période,
chaque fois que vous voulez raconter un certain nombre de choses sur José Mourinho, sachez que c'est l'entraîneur qui détient le record du nombre.
C'est noté, Rémi.
Moi, je suis pas aussi idolâtre que Rémi Ngono, mais je dois avouer que José Mourinho, c'est un personnage qui me parle parce que ses premiers matchs sur le banc de Benfica, je l'ai commenté à l'époque sur une petite chaîne qui s'appelait Pâté Sport, qui diffusait le championnat portugais en France. Et donc, il était en fait à côté de Carlos Moser, le grand défenseur de l'OM qui était retourné à Benfica et qu'ils avaient mis sur le banc. Et donc, il a été viré. Je me souviens d'avoir commenté ce match. Il gagne 3-0 le derby contre le Sporting, il est viré le lendemain. Donc, vous dites, c'est quand même étonnant, ce gars-là. Donc, il remporte le derby
il gagne et
il est viré le lendemain ou sur le lendemain, peut-être.
D'ailleurs, c'est raconté. Alors, il y a Moser qui témoigne dans le livre, notamment, qui fait partie de cela. C'est dingue parce qu'il devait d'ailleurs signer au Sporting dans la foulée. Et ça a été un tabou pendant près de 15 ans au Portugal, parce qu'il y a une vraie rivalité entre le Sporting et le Benfica. Et c'est l'agent de l'époque qui s'appelle José Veiga, qui était l'agent de Figo à l'époque, qui avait déjà signé le contrat avec le Sporting et Mourinho. Et en fait, il devait être annoncé en conférence de presse. C'est le lendemain du derby. Inacio, qui est l'entraîneur du Sporting, lui, se fait virer au même moment du Sporting. Il doit être annoncé, sauf que des socios du Sporting rentrent dans la salle de presse. La rumeur a filtré comme quoi Mourinho doit être annoncé entraîneur du Sporting. Et là, les socios obligent, menacent les dirigeants du Sporting. Si vous annoncez Mourinho, vous sortirez plus jamais du stade. Et là, en fait, Mourinho n'est pas annoncé. Le contrat est déchiré et Veiga raconte le reste dans le livre. C'est des scènes qui sont complètement lunaires.
Et du coup, c'est là, il rebondit à l'Unia Oleiria, tout petit club. Je crois qu'il est mis 5e du championnat.
Alors, il finit pas la saison puisqu'il part en cours de route.
Il va à Porto après. Et donc c'est vrai que c'est un parcours qui quelque part tient à peu de choses. Il a su saisir sa chance et après, par son travail, il faut reconnaître qu'il a obtenu des résultats remarquables.
Nicolas, juste une dernière question. Quand je disais peut-être retrouver dans la source son pouvoir, ce serait peut-être d'être sélectionneur du Portugal.
Alors il l'a dit, il le fera. Alors lui, il a dit, je le ferai en fin de carrière. Donc il estime qu'il n'est pas encore en fin de carrière. Il est encore trop jeune pour ça.
Il a 57 ans.
Il est jeune sur la page de garde du livre.
Hein. C'est fait. D'ailleurs, je dis bravo à Fabien Moine qui est l'éditeur, le patron d'Exuvis, petite maison artisanale d'ailleurs.
Ceux qui nous regardent sur Facebook Live ont vu tout à l'heure la première page.
Juste pour terminer, pour revenir à ce que disait Rémi, c'est très juste ce que tu dis Rémi. En fait, Mourinho a souvent été caricaturé comme entraîneur défensif à cause d'un match. C'est ce fameux match de l'Inter face au Barça parce que Eto'o a joué latéral et on oublie souvent les circonstances du match, à savoir que Mota a pris un rouge, que Eto'o se sacrifie ce jour-là. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est raconté dans le livre parce que ça parle beaucoup ballon et tactique aussi notamment. Sa philosophie, elle est pas du tout défensive à la base. Hein. Alors après, il est devenu plus pragmatique avec le temps, mais effectivement, il a gagné pas mal de titres comme ça aussi.
Le livre donc s'appelle Mourinho derrière le Special One de la Genèse à la gloire, édition Exuvis. Et on continue. On va parler de filles.
Notre joie, elle est logique parce qu'on arrive en finale et encore une fois, c'était pas facile ce soir.
Très heureux surtout parce que c'est vrai que ce sera la 9e finale. Alors, il faudra essayer d'être très fort contre Wolfsburg qui est une très très bonne équipe.
Qui envoie l'OL à Saint-Sébastien, 1-0 pour les champions d'Europe.
Et l'Olympique Lyonnais est encore en finale de la Ligue des Championnes. Une 5e finale consécutive pour cette équipe qui en a déjà disputé 9 et remporté 7. Dimanche soir, dans le stade vide de San Sebastián, Bilbao. San Sebastián au Pays Basque espagnol. Elles retrouveront un adversaire qu'elles connaissent bien, en plus les Lyonnaises, le club allemand de Wolfsburg, pour la 4e fois en finale contre l'OL. Lyon avait perdu en 2013 avant de gagner en 2016 et 2018 aux dépens de Wolfsburg. Les Lyonnaises ont donc un avantage psychologique, en tout cas c'est ce que nous dit la gardienne de cette équipe qui est aussi la gardienne des Bleus, Bleus avec un E, Sarah Bouadi.
Je m'entraîne pas tous les jours, mais je regarde pas mal les séances de tir au but, les pénalties, les tireuses. Je regarde aussi mon adversaire sur les matchs. Voilà, je pense qu'on va travailler tranquillement notre adversaire. C'est un match qui va être serré. Si on doit aller au pénalty, on ira au pénalty. On a un avantage sur elle psychologique. Donc voilà, nous, on a envie de donner le maximum. Après, si on donne le maximum, on sera pas déçu après le résultat. Mais voilà, c'est important de tout donner pour ce match-là.
Incroyable série de victoires pour cette équipe de filles de Lyon. Rémi, est-ce que vous les voyez favorites ou c'est une équipe qui est toujours en finale, toujours au rendez-vous et qui, une fois de plus, finalement, impose sa loi, on voit, contre le Paris Saint-Germain qu'elle rencontre si souvent?
Oui, on sent quand même que c'est une équipe qui, de plus en plus, c'est sûre d'elle, surtout expérimentée.
Et moins ses stars, hein, parce que Heather Beck, par exemple, n'est
beaucoup
blessée.
Hein, beaucoup étaient blessés. Hein, beaucoup étaient blessés. Mm-hmm. Puis, je me suis quand même dit qu'elle pouvait être en difficulté, mais en réalité, à regarder le Paris Saint-Germain, je n'ai même pas compris ce que le Paris Saint-Germain venait faire là. Je me suis dit, est-ce que Paris a vraiment le niveau? À part des fautes qui étaient terribles, des tirages de maillots, des coudes, c'était quand même assez haché du côté du Paris Saint-Germain. Cela veut dire que le Paris Saint-Germain se sentait dominé par cette équipe de Lyon. Et puis, lorsqu'on voit quand même, c'est pratiquement le but de Lyon. Mais vous savez très bien que quand Majlier du côté droit, elle doit centrer au deuxième poteau. C'est quand même hallucinant que Wendy Renard, qu'on sait très bien que
là.
C'est sur le plan aussi de la détente, c'est la Cristiano Ronaldo. sur 1m87, mais les autres sont là comme des nains. C'est hallucinant que, quand j'ai vu ça. Donc pour moi, c'est une équipe qui, elle peut souffrir, mais tu connais à peu près
à
exactement
fin.
Comment est-ce que ce sera la fin. Donc pour moi, c'est une équipe véritablement sur le plan européen qui a déjà une maîtrise, une assurance
et
qui part toujours presque avec déjà 60% d'avantage avant même le match.
Nicolas, justement, on parle de Wendy Renard, celle qui marque le but. C'est son 26e but en 87 matchs de Ligue des Champions. Évidemment, elle est toujours là et on l'a vu rentrer dans les vestiaires juste après la rencontre et dire « Allez les filles, on n'a pas fini quoi ».
Alors c'est justement, alors moi c'est ça que je trouve de remarquable chez les joueuses de l'OL, c'est-à-dire qu'elles sont pas blasées. Elles
jamais
arrivent
rassasiées.
C'est-à-dire qu'elles gagnent tous les titres, mais limite trop facilement des fois. On a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment
d'opposition
pas suffisamment relevée du moins en face. Et pourtant, c'est toujours à fond. Je trouve ça remarquable, cette capacité toujours qu'elles ont à se motiver, à vouloir gagner sans cesse. Et pourtant, il y a des joueuses comme Wendy Renard qui sont là depuis des années. On pourrait se dire, c'est des nouvelles joueuses, elles ne sont pas habituées à gagner, elles se motivent, etc. Et en fait, non, c'est remarquable. Et puis, gros big up aussi quand même à Jean-Michel Aulas. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup investi dans le football féminin. Il contribue aussi beaucoup au développement du football féminin en France et il fait vraiment de cette OL une machine à gagner, pas seulement en France là pour le coup, mais aussi au niveau européen, donc bravo.
Et d'ailleurs Xavier, Lyon c'est cette année une année incroyable, c'est-à-dire là c'est une finale de Ligue des Champions, c'est une demi-finale de Ligue des Champions et en Youth League aussi, hein, les moins de 19 ans qui ont été éliminés en quart de finale.
En quart de finale par le RB Salzbourg.
Ouais.
C'est un club extrêmement bien structuré. Maintenant la section féminine, elle a d'énormes moyens financiers. Effectivement, Jean-Michel Aulas a mis beaucoup d'argent pour avoir la meilleure équipe du monde, on peut le dire.
Il a souvent même créé les plus grandes vedettes.
Voilà, et en fait,
viennent.
C'est ça. On dit parfois, il n'y a pas de concurrence. Effectivement, il n'y a pas de concurrence avec les autres équipes en France ou même en Europe, ou très peu. Mais il y a une concurrence énorme au sein de l'Olympique Lyonnais. Il y a un effectif tellement riche qu'il faut se battre tous les jours à l'entraînement pour garder sa place dans l'équipe. Et là, vous voyez, il y a pas mal d'absentes. Ada Egerberg est absente. Mm-hmm. Nikita Paris, l'avant-centre, l'attaquante anglaise et elle aussi suspendue pour la finale.
Mais non, elle a quand même joué, elle a eu le rouge, non?
Oui, elle a été exclue en demi-finale, donc elle est suspendue pour la finale.
On a Grigembok,
la défenseuse qui est absente. Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France, qui est incertaine. Donc, ils ont quand même, il y a combien de clubs avec autant d'absence seraient plombés? Et mais non, parce qu'à Lyon, il y a un centre de formation, il y a des partenariats qui ont été noués avec certains clubs, il y a d'énormes moyens financiers qui font que les filles, quand elles viennent à Lyon, en général, elles y restent parce qu'elles ont de très très bonnes conditions salariales.
En tout cas, Wolfsburg, habitué aussi des phases finales, on se retrouve avec un sommet franco-allemand, comme chez les garçons. Wolfsburg, déjà, qui a remporté deux fois le titre.
C'est un gros club aussi.
Donc, c'est aussi un gros club du côté de l'Allemagne. Et dimanche soir sur RFI, il y aura une soirée spéciale sur l'antenne. Ça sera avec Frédéric Suto, avec Cédric de Oliveira et Sarah Lou Bakouche, ainsi que David Lortolari, qui viendra nous éclairer sur le football allemand féminin. Ça sera à 20h, 18h en temps universel. On continue avec notre session carton.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Xavier Barré.
Oui, dans la continuité dans la continuité du sujet qu'on vient d'évoquer, carton jaune à l'UEFA, parce que je trouve tout à fait anormal que les femmes n'aient pas le droit à l'assistance vidéo. Donc et elle y sera quand même pour la finale, mais elle n'y était pas pour la demi-finale. Et Barcelone, d'ailleurs, a de bonnes raisons de s'en plaindre parce que le
ni pour résultat, la demi, ni pour les quarts,
oui, ni pour les tours pour précédents, les huitièmes. C'est assez aberrant. D'autant plus que ces matchs ont lieu dans des stades, Saint-Sébastien et Bilbao, où il y a l'assistance vidéo qui est installée. On serait au fin fond de la Biélorussie, ce serait peut-être compliqué, mais c'est pas le cas. Donc vraiment,
enfin, carton. Lukashenko est pas d'accord avec toi. Ouais.
Carton jaune à l'UEFA, donc parce que bon, carton jaune parce que ils vont rattraper ça, on l'espère très vite la saison prochaine. Mais pourquoi les dames n'ont pas le droit à l'assistance vidéo, c'est tout à fait.
Oui, ça fait débat, et d'ailleurs, alors que les garçons, eux, l'ont à partir des huitièmes de finale. Ah, donc,
en Ligue des Champions, ils l'ont dès les phases de poule,
mais en Europa League, pour ce qui était de. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi les filles ne l'ont pas eu, et après le match du PSG, il y a eu beaucoup de polémiques. Rémi Gonneau, vous avez du temps pour votre carton.
Oui, je voulais mettre le carton rouge toujours à mon continent, là, comme vous avez dit, là. C'est-à-dire qu'avec les polémiques en Côte d'Ivoire, là où la politique se mêle au sport, là, avec le dossier Didier Drogba. Mais je laisse d'abord ça parce que la FIFA a donné la balle au carton rouge.
Moi, non, lui, c'était plutôt à l'UEFA, c'était pas la FIFA. C'était
la FIFA.
La FIFA
qui a demandé un peu qu'il laisse tout le processus électoral.
La FIFA essaye de contribuer. Ils sont en train de
le faire. Donc, aujourd'hui, le carton rouge que je voudrais quand même donner.
Ah, ça reste rouge.
Oui, rouge. Je le ramène en France avec Didier Deschamps et c'est Elvius Longlus de ma page Facebook Le Mingon officiel qui adresse donc un carton rouge à Didier Deschamps, à la Fédération française de football quand même, parce que là, Didier Deschamps veut recruter, dit-il, les meilleurs joueurs, et il fait appel à Rabiot. Donc, Rabiot, pour lui, a fait une très bonne saison, on peut le dire, avec la Juve, mais curieusement, il ne fait pas appel à Benzema, qui est quand même le meilleur joueur de la France, sauf si Didier Deschamps veut nous faire comprendre qu'il y a d'autres critères. Si c'est au niveau donc du comportement, si c'est au niveau de la discipline, on sait quand même que Rabiot est l'un des joueurs les plus indisciplinés, qui a critiqué ouvertement et tout et tout et tout, et qu'on le prenne et qu'on jette carrément Karim Benzema, qui n'a même pas droit à la rédemption, qui n'a même pas droit à quoi que ce soit.
Et ça touche les auditeurs africains.
Ah oui, c'est pour ça que je dis que non, il y a un problème.
Il faut juste expliquer une chose, c'est que Benzema c'est un attaquant et que là il appelle Rabiot parce qu'il a manque de milieu de terrain. Alors peut-être que Benzema pourra jouer milieu de terrain.
On te fait comprendre quand même que Benzema est le meilleur joueur de la France. Il faut le savoir.
Donc quand on a des Mbappé, des Griezmann, on a de très très bons attaquants.
Donc quand on me dit que voilà, c'est à cause de son comportement, il y a un problème africain qui dit que on ne brûle pas la couverture qui vous chauffe pendant le froid sous prétexte que elle a une puce.
Et Didier Deschamps.
Didier Deschamps
était champion du monde sans Benzema.
Carton vert à nos auditeurs internautes aujourd'hui qui tiennent à nous laisser des messages, à dialoguer entre eux aussi sur la page Facebook. On va arriver, grâce à vous, à 600 000 suiveurs, j'espère bientôt. En tout cas, merci pour tous vos messages, notamment celui posté par David Finzel autour de Messi et de cette nouvelle. 7 000 likes, 2 000 messages et 509 partages. Et il y avait ce joli message, alors on a eu envie de vous le lire aujourd'hui, de Bill McPolo, qui est du Tchad, et qui écrit « Blaugrana un jour, Blaugrana toujours. Merci de m'avoir fait autant vibrer pendant toutes ces années. Tu as été, tu es et tu resteras le meilleur joueur de tous les temps. À très bientôt en tant qu'adversaire, Sa Majesté, le dieu du football, Lionel Andrés Messi.
Oh. »
Hein, c'est une déclaration d'amour, n'est-ce pas?
Il est pas mort, tout va bien.
Il est pas mort.
Non, non, mais je préfère ça au proverbe de Rémy Ngono.
Il abandonne.
Tu les comprends toujours pas.
Ah ouais, c'est normal.
C'est pas grave. Bon, Nicolas, la prochaine fois, vous aurez un carton, n'est-ce pas?
Oui, ça, je me fais engueuler déjà.
On vous donne un carton vert pour votre
venue. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je voulais mettre un carton rouge à Xavier, moi. Cette moustache, c'est absolument. Non, mais
c'est dégueulasse. Un plan sur la moustache.
Carton rouge. Bah, si,
c'est la fin de ce Radio Foot. C'est la fin. Merci à David.
Excuse-moi,
merci à David Finzel. Merci à Alice Ménard qui était à la réalisation et Thibaut